Pluriel Gay. L'émission Gay de Radio Pluriel vous donne rendez-vous chaque mercredi de 20h à 21h sur Radio Pluriel.
Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. J'entends ma voix dans le casque, c'est formidable. J'ai envie de prendre la voix de Frédéric Mitterrand. Bonsoir.
Ceci de... Moi, je dirais que t'as un petit peu la voix de Mandalire.
Oui, mais on me l'a déjà dit. Je sais pas d'où ça sort, ça. Mais on me l'a déjà dit, effectivement. Et à la radio, ça ressortait un peu comme ça. Enfin, bref. Donc, en tout cas, c'est une émission spéciale ciné ce soir qui a été annoncée. Donc, si les gens suivent un petit peu les réseaux sociaux liés à l'émission ou à notre invité, vous saurez que ce soir, c'est émission traditionnelle d'avant-festival. Quel festival s'agit-il? Évidemment, Écran Mis, celui qui revient toutes les années, depuis 7 ans, c'est la 7e année. Je te dirai bonjour après, Yvan, laisse-moi finir. Et donc, le festival Écran Mis qui revient toutes les années pour nos plus grands plaisirs. Avant le printemps, il y a de la joie. Bonjour, bonjour les hirondelles, disait une grande copine à nous dans une célèbre chanson. Donc, du coup, le festival est de retour. Et bien là, malgré toutes les vicissitudes dont nous avons déjà eu l'occasion de parler avec notre invité, que vous aurez compris, il s'agit de Yvan Mitifiou, le directeur artistique, qui est par ailleurs notre monsieur cinéma et autres.
Ben bonsoir tout le monde.
Voilà, ça y est.
Festival est parti. Dans une semaine, ça commence.
Voilà, dans une semaine et ça dure une semaine.
Ça dure une semaine exactement. C'est sur 13 lieux cette année. C'est notre plus grosse édition. Vous avez connu les difficultés qu'on avait eues avec la suppression de la subvention de la région Rhône-Alpes. Eh bien, on a décidé de continuer. Il y a encore plus de projections que d'habitude. Deux de plus et beaucoup plus de lieux.
Alors avant de continuer... j'ai pas dit à mon téléphone, on a entendu un petit bruit, c'est pas grave, ça donne de la vie. Je voudrais saluer Bernard aussi, qui est là, dans son petit aquarium, dans son grand aquarium.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bon. Et c'est une très belle sélection, et puis le poisson rouge y frétille.
Voilà, le poisson rouge c'est Bernard. Parce que tu sais, on compare la régie à un aquarium, et voilà, on dit que notre poisson rouge c'est Bernard. Alors du coup, oui, c'est une belle édition effectivement cette année, comme le disait Bernard. Alors, tu as évoqué un petit peu donc les vicissitudes, j'en ai parlé aussi. Quelles vicissitudes, tu l'as dit, c'est la suppression de subvention. On en a déjà parlé ici à l'antenne. Ça a fait même un petit... buzz médiatique au niveau national, puisque Laurent Wauquiez, Lolotte, pour les intimes, notre cher président de région, a donc supprimé, lui et sa majorité, des subventions à tous les festivals LGBT de la région Rhône-Alpes, je crois.
Allez comprendre pourquoi.
Voilà. Sans aucune motivation, en fait. Sans avoir motivé cette suppression. Mais on la devine quand même. Hein, on devine quand même que c'est, un acte idéologique, on va dire. Puisque, on pourrait dire, bon, il veut faire des économies, le contribuable, etc. sera content. Mais en réalité, en même temps, quand on voit qu'il donne 50 000 euros à l'UNI, syndicat de droite bien connu, quand on voit qu'il part en Chine, n'est-ce pas, et puis qu'il organise une collecte de fonds pour la campagne de François Fillon, laquelle collecte peut-être terminera en orange qu'on ira lui porter en prison dans quelques temps, je ne sais pas, on verra ce que la justice va décider. Puis il faut savoir qu'il est parti en Chine, mais sous couvert donc d'une délégation. Bon, il y a eu une délégation régionale avec des élus de la région, avec aussi des chefs d'entreprise. Ils sont allés à Shanghai pour renforcer les liens commerciaux entre Shanghai et Lyon. Mais en même temps, il en a profité pour faire auprès des Français expatriés une petite soirée de collecte de fonds pour François Fillon.
Il aurait pu faire pour nous aussi.
Hein. Il aurait pu le faire, voilà. Et tout ça, bon, c'est aux frais du contribuable. Bon, pour dire qu'il y a eu la crèche aussi, elle a coûté très cher, pareil, la crèche de l'hôtel de ville. Enfin, bon, il y a les chasseurs aussi. Ça il a donné beaucoup, 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 beaucoup d'argent à la fédération de chasse.
Et pour un festival qui contribue à rendre les gens plus intelligents, à réfléchir tous ensemble, là non.
Donc on peut dire quand même qu'il y a les coupes sombres effectuées, en plus qui ne portent pas sur des sommes énormes.
Non.
Hein, puisque voyage en Chine, ça coûte cher. L'UNI, c'est 50 euros. Là, c'est des petites sommes de 3 000 euros hein, pour les uns, pour les autres. Bon, alors ça fait beaucoup pour le festival Écran Mixte, évidemment,
parce que
ça représente une part importante du budget. Nous en avions parlé. Et donc ça, il s'agit bien entendu d'un acte, d'un geste idéologique.
C'est pas leur valeur, comme ils disent.
Voilà. Alors, nous dirons que ça n'a pas empêché le festival d'avoir lieu, en tout cas, au contraire, ça a suscité des élans de générosité, puisqu'on en avait parlé aussi, vous avez eu, le festival Écran Mixte a reçu des dons privés, notamment, même des tout petits dons, et puis...
D'étudiants, oui. Des dons d'étudiants, et puis on a eu le soutien d'Agnès B., qui a eu vent de ce qui s'est passé, qui a lu la revue de presse de tout ce qui s'est passé. Elle a été absolument très choquée. Voilà. Et elle a dit, on va vous soutenir. Oui. Vive la différence.
À l'époque où il y a eu un buzz médiatique, elle a pris connaissance, effectivement. Et Agnès B., de toute façon, qui est une marque de vêtements connue depuis très longtemps. Agnès B., qui s'est souvent investie dans le contexte du militantisme LGBT.
Alors, Agnès B., c'est un mécène.
Voilà.
C'est une créatrice, mais c'est aussi un mécène. Elle soutient la création contemporaine, elle soutient le cinéma, elle soutient la photographie. Et elle a été sensible à notre cause, elle aime beaucoup ce qu'on fait. Et puis, donc, elle nous a soutenus de manière vraiment extrêmement généreuse, parce qu'on a fait le lancement du catalogue à la boutique Agnès B. le 16 février. Il y aura encore un événement dans le cadre du festival chez Agnès B. Et puis, elle nous a aussi donné de l'argent pour que ça continue, quoi.
Voilà, donc, Agnès B., mécène des arts et des lettres.
Et puis
aussi, quand je parlais du monde LGBT, je rappellerai qu'Agnès B. A soutenu longtemps... jusqu'à ce qu'il disparaisse, le Paris Foot Gay. Le club sportif de football de Paris Foot Gay, donc, qui portait des maillots floqués Agnès B.
Et puis, il faut savoir aussi qu'elle est aussi coproductrice de cinéma et qu'elle a produit aussi le deuxième film de Jonathan Cahouette, Walk Away Ronnie, qu'on passera dans le cadre du festival.
D'accord.
Donc là, il y a tout qui qu'elle est bien ensemble.
Oui, voilà. C'est une sorte d'assemblage, finalement, de puzzle qui forme un grand tout.
Et puis on a eu aussi donc cette année un soutien, donc on a sollicité la DILCRA, la délégation interministérielle de lutte contre le racisme, l'antisémitisme et l'homophobie, qui nous a donné une très belle subvention pour notre travail que nous faisons sur le terrain de lutte contre les discriminations, parce que on est à la fois sur le volet de la culture et aussi de la lutte contre les discriminations, puisqu'on passe aussi des films militants, beaucoup de documentaires, qu'il y a beaucoup de débats. Et donc, la DILCRA et Agnès B. ont sauvé le festival.
Alors, je dirais, il y a deux choses concernant cette subvention, pour en terminer avec Lolotte et sa suppression de subvention au festival LGBT. Il y a deux choses à voir quand même. Il faut reconnaître aussi que globalement, les enveloppes, les dotations destinées au festival culturel en général sont en baisse, et ça, quelle que soit l'étiquette politique. Bon, après, de la part de Laurent Wauquiez, connaissant, on peut imaginer qu'il y a quand même derrière, bien sûr, quelque chose d'un acte politique et idéologique. Mais d'une part, et d'autre part, ça fait penser en général que, on en avait déjà parlé, mais il faut envisager maintenant de nouvelles formes aussi, peut-être plus poussées, de partenariats privés. De plus en plus pour les festivals, un peu sur les modèles anglo-saxons notamment, puisque par exemple aux États-Unis, il y a très peu de financement public pour ce type de festivals qui sont nombreux aux États-Unis. Par exemple, je crois que le Festival de cinéma de San Francisco a une subvention de la mairie de San Francisco, mais ça représente la partie très infime par rapport à l'ensemble. Il y a beaucoup de dons privés, beaucoup de mécènes. Est-ce que tu penses qu'en France, on va tendre vers aussi, de plus en plus, vers le partenariat privé, le mécénat ?
Ben oui, c'est l'avenir, de toute façon. Il faut qu'il y ait quand même une reconnaissance institutionnelle. C'est très important, ça, que notre histoire, que notre mémoire commune soit reconnue de manière institutionnelle par la ville, par la région, par les collectivités locales, par l'État. Et aussi par les instances culturelles, il faut aussi qu'on soit reconnu de la presse culturelle, la presse cinéma, ce qui est rarement le cas dans les festivals LGBT. Et puis, évidemment, c'est l'avenir des festivals de manière générale. Des donateurs, il y en a de partout. La preuve, Agnès B. Donc nous a beaucoup aidé cette année, et on va aller dans cette voie-là, c'est certain. En plus, là, donc on a fait une demande pour être reconnu d'utilité générale. Donc, à partir de là, on pourra nous faire des dons qui seront défiscalisés.
Les festivals LGBT, tu penses, tu l'as souvent dit, et tu viens un peu de le sous-entendre à nouveau, ne sont pas pris au sérieux parfois.
Sont considérés un peu, pas vraiment comme des festivals culturels. Voilà, nous, quand on a créé Écran Mixte, le but, tout de suite, on a dit, on va mettre la barre très très haut. On va montrer ce qu'on fait, comment est-ce que le désir homosexuel aussi a inspiré le cinéma depuis la naissance du cinéma. Jean Cocteau avec Le sang d'un poète, que ce soit, voilà. Et c'est de ça qu'on parle, c'est pour ça qu'on passe énormément de classiques, énormément aussi de documentaires. On a toujours placé la barre très très haut dans ce festival-là, et ça commence à se savoir de manière sérieuse. Oui. Puisque je pense que là, on est quand même un petit peu une exception dans le paysage des festivals LGBT en général.
Oui, parce que dès le départ, l'intérêt aussi de Écran Mixte, c'est d'être à la fois, de ne pas courir que après les avant-premières ou les choses inédites, même s'il y en a dans le festival, mais c'est aussi un festival, il y a une part patrimoniale importante.
Si vous voulez, c'est vrai que le public LGBT, urbain, est avide, si vous voulez, de nouveautés. Alors on pourrait faire ça, passer énormément de nouveautés, de films, mais il faut que la qualité culturelle derrière suive, et c'est pas toujours le cas.
Un peu Chéri Chéri, par exemple, c'est un festival qui est basé que sur la nouveauté, l'inédit, des choses comme ça.
Parce qu'on est à Paris, parce que les Parisiens sont avides de nouveautés, donc ça se comprend aussi. Bien qu'il y ait quand même une sélection, hein. Il y a des très bons films. D'ailleurs, nous, on va à Chéri Chéri chaque année piocher des films. D'ailleurs, on en a ramené de Chéri Chéri. Mais c'est vrai que ils ne font pas, par exemple, de rétrospectives, des choses comme nous on fait. Nous, on a toujours fait des rétrospectives depuis la première édition.
Ce qui s'impose un peu, je dirais, quelque part, ce qui va de soi dans une ville comme Lyon, qui se targue donc à juste titre d'être la ville où est né le cinéma.
C'est une ville de mémoire, de patrimoine, c'est la ville du cinéma. Et c'est pas pour rien qu'aujourd'hui, bien, on a été, donc, le festival se déroule essentiellement au sein des cinémas Lumière, donc la société de l'Institut Lumière, donc, qui a repris, qui a sauvé les CNP, d'ailleurs qui vont changer de nom au cours du mois de mars, qui vont devenir les cinémas Lumière. C'est pas pour rien que notre travail a été reconnu de la part de l'Institut Lumière comme un vrai travail important, patrimonial, cinéphile et important.
Et il y a toujours à l'Institut Lumière le festival se déroule toujours en partie à l'Institut Lumière. Voilà,
L'Institut Lumière a accueilli depuis la première édition, même avant que le festival existe, l'Institut Lumière nous a toujours accueillis. Alors bien sûr, on leur fait plusieurs propositions. Il faut que ça colle bien sûr à leur ligne éditoriale. Il faut que c'est dans le cadre d'une rétrospective. Il faut que ce soit aussi dans le cadre patrimonial, une qualité cinématographique importante avec un auteur important. Et on a toujours réussi à trouver des concordances, et ils ont toujours été extrêmement généreux avec nous. Et aussi, les cinémas Lumière sont d'une générosité absolument exemplaire. Ils nous ont déroulé le tapis rouge, ils nous accueillent. Et puis, aujourd'hui...
Vous avez un grand fan en la personne de Thierry Frémaux, je crois, le directeur de l'Institut Lumière.
Oui, oui, alors il apprécie beaucoup notre travail, ça c'est sûr, il nous le dit souvent. Et nous aussi, on est très fans de lui et de l'Institut Lumière et des cinémas Lumière. Alors les cinémas Lumière, là, je ne sais pas si vous y êtes allés. Donc le CNP Terreau qui devient Lumière Terreau, le CNP Bellecour qui devient Lumière Bellecour, et l'ancien cinéma La Fourmi qui devient Lumière Fourmi.
Oui, ils ont tous été rénovés d'ailleurs.
Rénovés, ce sont des petits bijoux. Oui. Ils sont extrêmement cosy, c'est un vrai plaisir.
Et tout ça, c'est aussi l'Institut Lumière, Thierry Frémaux en fait qui.
Ouais, c'est ça. Et il y a donc une carte, carte d'abonnement commune pour les trois cinémas. Oui. Et c'est un véritable petit paradis. Cinéphile, c'est des petites salles, des petites capacités, on est bien dedans, tout, c'est génial. Et puis revoir
même Paris nous les envie évidemment.
Mais franchement, se balader en ville et revoir des affiches de cinéma, ça fait plaisir, hein, parce que c'était plus le cas ces dernières années. Vous savez que maintenant la tendance quand même des cinémas actuels, c'est d'ouvrir en périphérie. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait à l'Institut Lumière? Ils ont réouvert des salles qui étaient destinées à fermer. En plein centre-ville, quoi. Ouais. Ça, c'est vraiment unique. C'est unique en France et sûrement unique au monde, là, ce qui se passe actuellement. Et le fait est que l'ouverture de ces cinémas n'a en rien nui aux autres cinémas. Et au contraire, il y a plus de gens qui vont au cinéma. Donc, tout le monde est gagnant. C'est très chouette.
Et donc, parmi les 13 lieux, tu as cité 13 lieux, je crois.
12 lieux de projection et la soirée officielle au Feuillant.
D'accord. Donc, il y a l'Institut Lumière, les Ciné-Lumière aussi.
Donc, il y a les Cinémas Lumière, il y a Lumière Terreau, Lumière Bellecour, il y a l'Institut Lumière, ouverture aux comédias, clôture au Pâté Bellecour, il y a le Lavoir Public, qui est aussi un soutien du festival depuis la première édition. Il y a les bibliothèques municipales de Lyon, d'ailleurs une bibliothèque de plus cette année, on est sur 4 bibliothèques, il y a toujours le Goethe-Institut, et puis cette année on fait deux événements au sein de la Fac de Bron, en partenariat avec le festival Fais pas genre, le festival des étudiants de l'université Lumière Lyon 2. Donc 13 lieux au total.
D'accord, alors par contre, les années précédentes, vous aviez... vous aviez eu aussi des salles en banlieue dans la métropole de Lyon, en dehors de la ville même de Lyon.
On va revenir à ça.
Oui, vous allez y revenir aussi.
L'année prochaine,
je trouve que c'est un concept aussi intéressant.
C'est très intéressant, que ce soit Villeurbanne, que ce soit Bron, qui ont tous de très beaux cinémas. Hein. Ce sont en plus des cinémas associatifs, des cinémas indépendants, que ce soit à Sainte-Foy-lès-Lyon, Dessines. Et ce sont des vrais palais, des vrais temples de la cinéphilie. Il faut absolument qu'on revienne là-bas.
Alors, on a évoqué l'Institut Lumière, on en a parlé. On peut parler aussi du Goethe-Institut. Alors, l'Institut Lumière, pour revenir, c'est le côté aussi, un côté patrimonial aussi, souvent, les séances sont axées plutôt sur le côté patrimonial. Je sais qu'à l'Institut Lumière, il y avait eu, je me souviens, la rétrospective, la diffusion, ce qui n'était pas très patrimonial finalement, quoique, du documentaire de Sébastien Lifitch, Bambi.
C'était sur la mémoire.
C'était sur la
mémoire. Voilà. Et puis aussi une vision d'auteur. Sébastien Lifshitz, c'est un vrai auteur. On passe pas que des films de patrimoine. Il est passé Xenia de Panos Koutras.
À
l'Institut Lumière. Et d'ailleurs, Panos Koutras avait choisi d'ailleurs une carte blanche, un film de 1950 qui s'appelait Stella, femme libre, un film grec. Et donc là, voilà. Et là, cette année, ça va être un petit peu sur le même modèle, puisqu'il y a donc Jonathan Caouette, notre invité d'honneur cette année, a une carte blanche à l'Institut Lumière. Il a choisi le film Poison, le premier film de Todd Haynes, le réalisateur de Carole. Et on va passer aussi le film qui a fait connaître Jonathan Caouette dans le monde entier, son bouleversant Tarnation.
Oui, on reviendra dessus. Pour finir avec l'Institut Lumière, c'est vous qui leur proposez
des... On leur fait plusieurs propositions.
Vous faites des propositions.
Voilà, on a une ligne éditoriale, on dit voilà notre ligne éditoriale, est-ce que ça vous intéresse tel film, tel film, tel film ? Et eux, ils choisissent. Voilà. Et cette année, ils ont dit, ça nous ferait plaisir de recevoir Jonathan Caouette, parce qu'on a envie de remontrer le premier film de Todd Haynes, et puis on a envie de montrer le film qui l'a fait connaître.
Alors, ce qu'il y a aussi de très bien, c'est votre partenariat avec le Goethe-Institut.
Auquel nous sommes très attachés, voilà. Parce que ce sont des moments un petit peu magiques au Goethe-Institut.
Alors, le Goethe-Institut, qui est donc l'Institut culturel allemand, ça allait de soi qu'un festival comme Écran Mixte soit un partenaire avec le Goethe-Institut pour...
Les Allemands, ils sont hyper ouverts là-dessus.
Moi, ça me fait plaisir aussi parce que... ça me fait plaisir. Moi, tu sais que l'Allemagne, c'est un pays, moi, je trouve, en tout cas, au niveau patrimonial, a beaucoup à apprendre, finalement, au niveau patrimonial, au monde entier, puisque avant même, on en a souvent parlé ici... Avant même San Francisco, les États-Unis, les émeutes de Stonewall, tout ce qui a formé un peu la communauté gay LGBT contemporaine, l'Allemagne, elle, avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir, avait une vie LGBT extrêmement importante.
Et unique au monde.
Voilà.
C'est-à-dire que c'était...
Seulement de boîtes, de cabarets qu'on peut trouver par exemple à Paris ou à Londres, mais aussi avec des mouvements militants, avec des journaux militants, etc. Il y avait tout un monde, un véritable monde social, culturel.
Et il y avait aussi un guide des lieux LGBT.
Et du coup, l'Institut Goethe présente donc des œuvres allemandes, et c'est ça qui est intéressant au niveau patrimonial. L'année dernière, par exemple, on avait eu avec la conférence de l'incontournable Didier Rod Bettoni, peut-être qu'il nous écoute ce soir, bonsoir Didier, on avait eu donc
différent des autres,
voilà,
premier film homosexuel de l'histoire du cinéma,
un film militant,
ah oui, proprement militant, oui, pour le coup, oui, 1919, et puis après on avait passé Victor und Victoria, la première version de Victor Victoria, donc qui était réalisée en 1932, juste avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Donc au Goethe-Institut, c'est pareil, c'est nous qui leur faisons une proposition. Donc ce sont des partenariats, donc on leur fait des propositions, on dit voilà, on aimerait travailler là-dessus cette année, est-ce que vous êtes d'accord? Ils voient les films et ensuite ils nous donnent leur accord ou pas, en tout cas là, à chaque fois ils disent oui, ils sont très très ouverts. Le Goethe-Institut est plutôt basé quand même sur le côté contemporain de l'Allemagne. Et nous, on les amène plutôt vers le patrimoine, donc ils sont vraiment sympas en plus d'aller dans notre sens.
Du coup, le patrimoine cinéma allemand, qui, il ne faut pas l'oublier, très important aussi.
Et qui est absolument fondamental dans notre thématique. Cinéma, ouais. Dans notre thématique LGBTQI, elle est fondamentale. Voilà. Tout passe par l'Allemagne automatiquement.
Et cette année, donc, on a le célèbre « Jeune fille en uniforme ».
Alors, « Jeune fille en uniforme », 1931.
Il y en a eu deux.
Il y en a eu trois.
Trois,
voilà.
D'accord. Donc, avec Romy Schneider.
Bien sûr, en 58, qui est beaucoup plus édulcoré.
Oui.
Là, « Jeune fille en uniforme », c'est un grand classique. C'était le plus grand succès du cinéma allemand en 1931. C'est une histoire proprement lesbienne. C'est pas caché, c'est pas crypto. C'est une jeune orpheline qui arrive dans un pensionnat, qui tombe amoureuse d'une de ses profs, qui est remarquablement belle et tout. Il y a une sensualité. La prof, tous les soirs, elle vient embrasser ses élèves, voilà. Et donc on passe ce film-là. Beaucoup de gens l'ont vu, mais là c'est l'occasion de le revoir ensemble. Parce que c'est quoi le but d'un festival? Je le dis à chaque fois, c'est de voir ou de revoir ce qu'on ne peut pas voir ou ce qu'on ne peut plus voir. Et puis, il y a aussi le plaisir de revoir les choses ensemble. C'est le but d'une salle de cinéma. À l'heure du téléchargement, les salles n'ont jamais été aussi pleines. Comment vous expliquer ça? Donc, il y a le plaisir d'aller en salle, de voir les choses ensemble. Et puis, en plus, donc, la version qu'on va passer, c'est la première version du film, c'est-à-dire la version optimiste. Il faut savoir que les Américains ont demandé un retournage de la scène finale, dans lequel ça finissait en drame, évidemment. Les amours homosexuels doivent être malheureuses. Là, non, elle est heureuse.
Donc, on s'en réjouit.
Et puis, au Goethe-Institut, donc le lieu est magnifique, c'est un grand loft, c'est très berlinois, hein, c'est très allemand. Et puis, il y a toujours un pot de bienvenue. Là, voilà. Il y aura en plus un cocktail, un pot de bienvenue. C'est toujours gratuit, c'est que du plaisir. Venez au Goethe-Institut. Vous serez bien accueillis.
Alors, jeune fille en uniforme, dont je ne dirai pas le titre en avance, malheureusement, je ne parle pas allemand, et donc on verra une version originale. C'était un film parlant, déjà, hein, on est d'accord.
Oui, oui, en 31.
C'était en 31, c'était
parlant. Le cinéma est parlant depuis 1927.
Oui. Et là, donc, avec des sous-titrages, évidemment.
Qu'on a fait faire, ouais. Par une membre de notre équipe, qui est une ancienne aussi du Goethe-Institut.
Donc, c'est une sorte de pierre rare, encore une fois, que vous présentez là, au Goethe-Institut.
C'est une des curiosités, comme l'année dernière, Victorine Victoria était une curiosité, et que la salle était pleine. Jeune fille uniforme, en plus, est un film, en plus, remarquable. C'est vraiment du grand cinéma allemand du début du siècle, quoi. Ouais. C'est du très grand cinéma.
Donc, écran mixte est ouvert sur l'intérieur, l'extérieur, le passé, le futur et le présent. Ça, c'est bien. C'est une immense bulle, en fait, queer, LGBT, pendant une semaine, où on aborde plein
Des esthétiques différentes. C'est absolument passionnant quand on commence à travailler sur l'esthétique, par exemple, homosexuelle, masculine, c'est absolument fascinant. On retrouve, si vous voulez, une espèce de langage universel qui vient, on va dire... de Jean Cocteau qui se poursuit avec Jean Genet, qui se poursuit avec Pierre et Gilles, qui se poursuit avec Pig Narcissus, qui se poursuit aujourd'hui avec Xavier Dolan. Il y a une esthétique proprement homosexuelle qui est absolument passionnante d'explorer depuis la naissance du cinéma.
D'accord. D'ailleurs, la Cinémathèque française, avec qui vous êtes aussi partenaire, va diffuser, entre autres, Pig Narcissus de James Bidgood.
Il faut savoir que la Cinémathèque française a, dans le cadre d'événements récurrents qu'elle organise à Paris, elle a une soirée qui s'appelle Fenêtre sur les collections. Et il se trouve que l'année dernière, la Cinémathèque a trouvé de manière, dans ses collections, parce que des collections absolument faramineuses, a trouvé deux courts-métrages absolument sublimes de François Reichenbach, un des plus grands documentalistes français, deux films proprement homosexuels, deux poèmes cinématographiques absolument sidérants qui annoncent 20 ans avant l'esthétique de Pig Narcissus. Ils ont retrouvé ces films, ils les ont numérisés, ils les ont restaurés. Et ils ont fait un grand programme dans lequel ils ont proposé aussi Pig Narcissus en copie 35 mm. Nous sommes allés voir ce programme à Paris et on l'a ramené à Lyon. On l'a dit, c'est un programme absolument fabuleux. On le veut sur Lyon à écran mixte. Et donc, ils nous ont donné gratuitement, gracieusement, l'accès à ces copies et aux droits des films. Parce que je voudrais revenir aussi sur une chose, sur le militantisme aussi, suite à ce qui nous est arrivé avec la région. Les distributeurs, et notamment des producteurs et des réalisateurs, nous ont donné leurs films gratuitement. Notamment dans les programmes de court-métrage. Il y a des tas de réalisateurs, de producteurs qui nous ont dit « On vous donne gratuitement le film, c'est notre façon aussi de militer. » Et là, la Cinémathèque française nous a donné gratuitement les droits de ce programme qui va être une des grandes pierres précieuses de ce festival. Ça va être un moment unique. Pic Narcissus, beaucoup de gens l'ont vu, on le trouve même sur YouTube, mais l'intérêt c'est de le voir en copie 35 mm dans une salle de cinéma absolument superbe, ce sera à Lumière Terreau, et puis avec ces deux courts-métrages que personne n'a jamais vu à part ceux qui ont assisté à cette première séance à Paris.
Pic Narcissus, qui est un grand film de patrimoine homosexuel, on peut dire.
Ah ben c'est un grand manifeste, on va dire. C'est un manifeste quasi ultime de tous les fantasmes et de toutes les esthétiques.
La sexualité masculine.
Masculine, voilà. On est dans le rêve, on est dans le fantasme, on est dans l'idéalisation, on est dans toute cette esthétique passionnante. Et puis en plus, on est dans le kitsch absolu. Ouais. Le kitsch qui fait quand même partie de notre identité. Hein,
Alors, ce qui est marrant, c'est une façon de parler. Pic Narcissus, très longtemps, on ne savait pas qui l'avait réalisé très précisément. On avait des doutes, mais on ne savait pas qui. Il y a plusieurs noms d'ailleurs qui ont été évoqués.
Dont Andy Warhol.
Voilà. On présentait Pic Narcissus comme. On disait Pic Narcissus par Anonymous.
Par Anonymous, oui, c'est ça. Maintenant, on sait qui c'est James Bidgood, un immense photographe de mode. Mm. Et donc, ce film, il a réalisé pendant 7 ans dans son petit studio à New York. Mm. Et d'ailleurs, on voit d'ailleurs le personnage principal vieillit. On le voit vieillir dans le film. Donc c'est une œuvre monde, c'est une œuvre magique, c'est une exception dans l'histoire du cinéma, ce film-là. C'est au-delà de l'OVNI, c'est un bijou pur, et c'est cette esthétique-là qui, ces créateurs qui sont dans leurs fantasmes, dans leurs rêves, qui me passionne complètement.
On parlait de Pierre et Gilles, quand même. Pierre et Gilles se sont
très influencés,
ont été influencés par le Pic Narcissus de James Bigwood. Alors il y a des séances qui sont présentées aussi, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vient parler de ce qu'on va voir. Ça sera le cas notamment pour les films donc de la Cinémathèque française.
Oui, ce sera le responsable des acquisitions et chef de projet des restaurations de films à la Cinémathèque française, donc qui vient de Paris. Hervé Pichard viendra présenter tout le programme, expliquer comment est-ce que ces films ont été retrouvés, comment ils ont été restaurés et replacer aussi leur place dans l'histoire du cinéma, puisque tous nos films sont recontextualisés, hein, on fait toujours une présentation systématiquement. Des fois, ce sont les réalisateurs eux-mêmes qui viennent parler avec le public de leurs films, et puis des fois, ce sont des journalistes ou des spécialistes.
Alors, on va faire une petite pause musicale maintenant. C'est toi qui as pourvu aussi l'émission en musique. Tu as amené un morceau de musique de R, c'est ça ? Alors, vas-y, présente-nous un petit peu ce morceau. Pourquoi tu as choisi ce morceau ?
Parce que c'est un morceau joyeux.
Voilà. Et qu'on est dans la joie, dans la gaieté.
Très chouette.
Pluriel Gay, la seule émission LGBT sur Lyon et sa région. Chaque mercredi, de 20h à 21h, sur Radio Pluriel.
Eh bien, nous voici de nouveau à l'antenne avec Yvan Mitifio, Bernard à la radio... Oh, à la radio. Oui, à la radio, certes, en régie, en tout cas. Retour donc au Festival Écran Mixte, qui va commencer mercredi prochain.
Et oui.
Le 8 mars.
Dans une semaine, exactement.
Dans une semaine.
Donc... Avec tout ce qui nous reste à faire, encore pendant une semaine.
Oui, il y a encore du travail, c'est la dernière ligne droite, ouais, je dirais.
Dernier sprint.
Dernier sprint.
On ne peut plus reculer.
Alors, voilà. Donc, en fait, il y a des soirées thématiques intéressantes. L'année dernière, je sais que vous nous aviez gratifié donc, de courts-métrages qui avaient eu beaucoup de succès. Et cette année, vous remettez ça, notamment en partenariat avec le Festival Face à Face de Saint-Étienne, nos voisins. L'année dernière, c'était avec le Festival de Nice, je crois, LGBT de Nice.
C'est ça. Il y avait tellement eu de monde qu'on avait été obligé de doubler la séance. C'était une séance complètement joyeuse, très chouette.
Et donc, les courts-métrages, ça marche. En fait.
Ça marche du tonnerre en festival LGBT. Pourquoi ? Parce que les courts-métrages, on les voit nulle part, tout simplement. Donc, ou alors à minuit sur France 2, voilà. Non, on les voit nulle part. Et surtout LGBT. Donc là, c'est l'occasion. Et là, donc, c'est un rendez-vous qu'on va perpétrer. Et chaque année, on va donner carte blanche à un festival pour un programme de court-métrage. Après Nice, cette année, c'est Saint-Étienne. On avait envie aussi de renouer, de nouer des liens forts entre deux festivals, donc de la région Rhône-Alpes, puisque eux aussi se sont vus sucrer leur subvention. On a dit, écoutez, on va pas se laisser faire. On va montrer ce qu'on sait faire.
Solidarité.
Voilà. Et donc, on leur a donné une carte blanche. Et ils ont choisi que des films primés à leur festival, parce qu'ils ont une compétition chaque année. Ils ont une nuit du court-métrage qui a beaucoup de succès sur Saint-Étienne. Et là, ce sont tous les films primés 2015-2016 de leurs deux dernières éditions. Donc, ce sont que des bons films. Au total, il y a 7 courts-métrages internationaux. Il y a de tout. Il y a des films d'animation, il y a des comédies, il y a des films lesbiens, des films gays, des films trans. Il y a tout. C'est un vrai programme. Donc, presque 2 heures. C'est un grand programme. Ils seront là aussi pour représenter le festival. Et puis, de notre côté, nous, on a reçu des courts-métrages. Tous plus beaux les uns que les autres. Et puis, on a trouvé qu'il y avait une thématique commune avec ces courts-métrages. C'était l'adolescence. On a reçu de très beaux films français qui ont été présentés dans de nombreux festivals qui traitaient tous de l'adolescence. Et de notre côté, Écran Mixte a décidé de créer un programme de courts-métrages d'une sélection à nous. Un programme de presque 2 heures aussi. Qui traite tous de l'adolescence en France. D'ailleurs, c'est le titre de ce programme, Playground Love, en hommage à une chanson de R, justement, des adolescences en France. Et ce sont des films qui respectent la parité homme-femme. Il y a autant de films lesbiens que gays. Et donc, en fait, on vous propose ces deux programmes tout un après-midi, l'après-midi du samedi. Venez avec les amis, venez passer une super après-midi à Lumière Bellecourt pour ces deux programmes de courts-métrages.
D'accord. Alors, donc, on parlait tout à l'heure, on a évoqué l'invité d'honneur qui est Jonathan Cahouette. Alors, est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur Jonathan Cahouette, justement, pour ceux qui ne connaîtraient pas ?
Alors, Jonathan Cahouette est un... Ah, c'est pas facile d'en parler. C'est un réalisateur américain. Il est, on va dire, le lien entre... il est le fils, si vous voulez, direct et spirituel du New Queer Cinema. C'est le fils de Gus Van Sant, de Todd Haynes. D'ailleurs... sa première carte blanche, c'est le premier film de Todd Haynes. Et il est le lien aussi avec le cinéma d'aujourd'hui, avec celui de Xavier Dolan. Il est entre Gus Van Sant et Xavier Dolan. Son cinéma est absolument fondamental. Il est peu connu, mais il est absolument fondamental. Il débarque sur la scène du cinéma du jour au lendemain, en 2004, à Cannes. C'est un raz-de-marée. Avec son film Tarnation, qui sera proposé à l'Institut Lumière. C'est un journal intime, filmé, une sorte d'autofiction. Parce qu'il faut savoir que Jonathan donc, se filme depuis qu'il a 11 ans. Et donc ce film montre en fait, l'évolution de sa vie sur 20 ans de captation filmique. Il se filme depuis l'âge de 11 ans jusqu'à l'âge de 31 ans. Et avec toute la découverte de son homosexualité, la découverte de son identité. Et avec ça, il filme l'histoire tragique de sa maman, en fait, Renée, qui est au centre de son œuvre et qui souffre de schizophrénie. en fait. Et donc, le film parle à la fois de lui, de l'évolution, de comment est-ce qu'il s'en sort aussi par le fait de se filmer, d'exister, de montrer au monde qu'il est là, de filmer sa rage et aussi filmer pour survivre, pour ne pas crever. Et puis, filmer aussi sa mère, la détresse de sa mère, mais aussi ses joies, parce que c'est René est quelqu'un de d'inoubliable. C'est quelqu'un qui a une personnalité extraordinaire. Elle est très joyeuse. Et donc, voilà. Donc, ce film a fait un raz-de-marée quand il est sorti à Cannes. Et des années plus tard, presque 10 ans plus tard, il en fait une suite qui s'appelle Walk Away Ronnie, dans lequel, en fait, c'est un road movie avec sa mère. Le film est très différent dans sa forme. Il fait un road movie à travers les États-Unis à sa mère pour l'amener dans une institution plus adaptée, une institution médicale plus adaptée. Et donc, c'est le film raconte leur voyage tous les deux. C'est un film d'une tendresse absolue qui a été aussi une nouvelle fois sélectionné à Cannes. C'est un film bouleversant, Walk Away Ronnie, très différent de Tarnation. Alors, Jonathan Caouette, c'est un vrai vidéaste. Il est pétri d'images, il est nourri d'images. Et il a sa patte cinématographique est faite de patchwork, de montage psychédélique, dans lequel il y a des extraits de films, dans lequel il y a des captations filmées, c'est beaucoup d'écrans en split screen, c'est-à-dire plusieurs écrans dans les écrans, énormément de musique, la musique est omniprésente dans son œuvre, et c'est une espèce d'univers mental extrêmement cohérent, extrêmement beau. Ce sont des vraies œuvres d'art pop art, on va dire. Ce sont des vraies œuvres d'art modernes dans le sens où son cinéma a apporté quelque chose qui n'existait pas, si vous voulez. Il y a une tradition. Il vient effectivement de la tradition du New Queer Cinema et aussi du pop art d'Andy Warhol, mais lui, il a élevé ça vers autre chose. Son cinéma est vraiment unique. On est très heureux qu'il vienne au Festival Écran Mixte et on est très heureux qu'il vienne à l'Institut Lumière pour une double séance, sa carte blanche et Tarnation, qui est bouleversant. Tarnation est un film absolument sidérant, absolument inoubliable.
Systématiquement, lorsque vous avez donc à chaque édition du festival Écran Mixte, vous avez donc un invité d'honneur. Donc cette année, on a bien compris que c'est Jonathan Caouette. Systématiquement, vous lui proposez à cet invité une carte blanche, et c'est ce que vous avez fait pour Jonathan Caouette. On l'a entendu.
Et pour Panos Koutras aussi. Ouais. On l'a pas fait pour Alain Guiraudy parce qu'il n'était pas sur Lyon assez longtemps, en fait.
Ouais.
Mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi comment est-ce que ces cinéastes ont été nourris, en fait. Quels sont les films de leur vie, c'est ça qui est passionnant. Quand Panos Koutras a choisi Stella, femme libre, c'était quand même un film révolutionnaire en 1950 en Grèce. Cette histoire de femme qui s'émancipe, qui veut vivre telle qu'elle le veut, c'est un vrai film féministe. C'est un vrai film, un très beau film de cinéma. Et là, c'est logique qu'il ait choisi un film de Todd Haynes, qui est vraiment, on va dire, son père spirituel. Et en plus, c'est l'occasion de revoir un film complètement invisible, Poison, qui est tiré de Jean Genet. Donc là, on est dans une cohérence absolue, si vous voulez, dans une esthétique. L'esthétique du New Queer Cinéma vient aussi de Jean Genet, vient d'un Champ d'amour. Et donc, Poison est une adaptation de 3 nouvelles de Jean Genet, 3 courts-métrages très homo-érotiques, très fantasmagoriques, qui... C'est une œuvre d'art pure. Et il sera là pour nous en parler.
D'accord, parce que évidemment, l'invité d'honneur est présent aussi, donc Jonathan Caouette sera
sûr.
Là.
Il présentera Poison et ensuite il échangera avec le public sur Tarnation. Alors l'Institut Lumière a mis en place un tarif spécial. Le deuxième film est à 5 €. Voilà, quel que soit le film qu'on ait choisi, il y a un pack. En fait, le deuxième film est à 5 €, ça fait que vous pouvez vous faire vraiment plaisir avec une soirée inoubliable.
Alors, il y a aussi un film sur lequel, j'aimerais que tu nous parles un petit peu, parce qu'on ne parle pas de tout, de tout, parce que, bon, après, il faut prendre connaissance, évidemment, de toutes les œuvres qui vont être présentées cinématographiques, donc les œuvres cinématographiques sont présentées au Festival Écran Mixte, mais... il y a un... Donc récemment, on a vu que le film américain Moonlight avait reçu la récompense suprême aux Oscars à Los Angeles.
Alors c'est incroyable, c'est la première fois qu'un film gay a l'Oscar suprême. C'est extraordinaire. Voilà. En plus, c'est un film qui parle de minorité. C'est un symbole magnifique aujourd'hui dans l'Amérique de Donald Trump.
Voilà. Alors, Moonlight, c'est un beau film, certes, mais toi, tu m'as dit, j'ai encore quelque chose de mieux au festival.
On a aussi
en toute humilité.
On va vous proposer en ouverture le film gay de l'année. Voilà, ça s'appelle Les Initiés. C'est un film sud-africain. C'est un film essentiel, fondamental, très beau. C'est une sorte qui fait penser un peu à Brokeback Mountain. C'est ça se passe aujourd'hui, de nos jours. En Afrique du Sud. Il y a des rites ancestraux d'initiation à la virilité qui se perpétuent encore aujourd'hui. Des adolescents sont amenés dans la montagne et sont isolés du monde pour devenir des hommes, voilà. Et c'est cette histoire-là qu'on va suivre avec un jeune homme qui va parrainer un des jeunes initiés pour en faire un homme, sauf que ce jeune parrain, on va dire ce jeune tuteur, est lui-même homosexuel et que chaque année il revient dans les montagnes vivre son amour caché avec un autre tuteur, voilà.
D'accord.
Donc c'est très beau. Alors c'est un film qui parle vraiment de la masculinité dans toutes les sociétés, en fait. C'est un film qui parle aussi du virilisme, qui parle aussi de la difficulté d'être soi, des amours cachés. C'est un film qui traite d'absolument tous les sujets qui nous tiennent à cœur. Et en plus, c'est un film d'une beauté, c'est du très grand cinéma. C'est la première fois que le film est montré en France. Il y aura très certainement le réalisateur qui viendra d'Afrique du Sud au Comédia mercredi prochain pour parler avec les spectateurs. C'est en attente de confirmation. C'est une pépite, c'est un bijou. On est très heureux de donner le ton, si vous voulez, du festival avec ce film, Les Initiés.
Qui fait donc l'ouverture du festival. L'ouverture
du festival et qui sortira le 19 avril au cinéma.
Alors, on parle beaucoup de mecs, je trouve, mais on a déjà dit, hein, le festival Grand Mix n'est pas assez de place à l'homosexualité féminine. Là, tu t'inscris en faux là-dedans. Vous essayez toujours de faire quand même
le
LGBT soit.
Mais le problème qu'on a, c'est de la production. Il y a beaucoup moins de production féminine, si vous voulez, que masculine. C'est comme ça. Donc.
Mais cette année, vous vous rattrapez parce qu'il y a quand même beaucoup de thématiques.
Ah, cette année,
oui. Jeunes filles en uniforme.
Et puis surtout, on fait toujours la grande place. Justement, on essaie de rééquilibrer tout ça en donnant la place aux documentaires. S'il n'y a pas beaucoup de fiction féminine, on essaie de rééquilibrer tout cela avec une programmation de documentaires qui plus est, si possible, réalisée par des femmes. Hein, c'est important de voir la vision des femmes. Ceci dit, il y a quand même des belles fictions lesbiennes.
Hein. Oui, oui.
Il y a un film israélien qui est très bien, réalisé par une femme. Il y a Des Femmes et des Chevaux qui sera projeté aussi au Goethe-Institut, qui est réalisé par une grande icône lesbienne allemande, Monika Treut. Et puis des très beaux documentaires, notamment Les Vies de Thérèse sur Thérèse Claire, militante de tous les combats. Un grand documentaire sur Alice Walker, première femme noire à obtenir le prix Pulitzer. Un documentaire sur une communauté transgenre en Inde. Un très beau documentaire sur l'amour de deux femmes vivant en situation d'handicap. D'ailleurs, la réalisatrice sera là pour en parler à la bibliothèque municipale du 3e. Et puis, il y a un film complètement délirant, une sorte de Rocky Horror Picture Show lesbien, Die Hard. Moi, je vous conseille d'aller chercher tout de suite vos places parce que ça va jouer à guichet fermé. C'est le grand ovni du festival. C'est un film délirant avec des ninjas, des fantômes, des courses-poursuites, un groupe de rock lesbien voilà, qui assassine les gens. C'est absolument génial. Prenez connaissance de la programmation sur notre site. En tout cas, oui, il y a bien la place aux femmes et aussi aux trans, notamment par la projection de trois documentaires, dont un en avant-première qui va sortir en salle de cinéma, qui s'appelle Finding Fong, qui est une des pépites du festival, qui sera proposée le dimanche soir. C'est une avant-première, bien que ce soit un documentaire, il sortira en salle. C'est le journal intime, filmé, d'une jeune vietnamienne. C'est l'année, en fait, ce film, l'année qui précède son opération, en fait. Voilà. Donc c'est un journal intime, on est vraiment avec elle. Et c'est un film qui a fait avancer les droits des transidentités au Vietnam. Donc c'est un film très important, Finding Fong. Et on avait envie de le montrer en salle, celui-là. Parce que sa place, ce film est vraiment en salle.
Alors donc, comme on disait, on ne va pas parler de toutes... on a évoqué pas mal d'œuvres présentes au festival cette année, au festival Écran Mix. On n'a pas parlé de tout, donc on redonnera tout à l'heure, évidemment, les coordonnées du site Écran Mix. Et puis, il faut savoir aussi qu'il y a donc cette magnifique plaquette dont tu es très fier, Yvan.
Qui est réalisée par Cédric, depuis la première édition.
Voilà. Et qui présente toute la programmation avec
clarté.
Ah voilà, avec un pitch écrit pour chacune des œuvres.
Voilà, c'est un vrai festival cinéphile, c'est-à-dire que les membres de l'équipe écrivent sur les films. Ils les écrivent et puis les présentent aussi en salle.
Alors, je voudrais que avant qu'on se quitte, on dise un petit mot aussi sur Patrick Chia. Alors, parle-nous un petit peu de Patrick Chia, parce que peut-être pas très connu de nos auditeurs.
Mais justement, c'est pour ça qu'on le passe au festival. Mmh. Patrick Chia est en passe de devenir un des réalisateurs queer les plus importants au monde. D'ailleurs, cette année, on lance un nouveau rendez-vous qui s'appelle Une soirée avec. Voilà, donc chaque année, on va inviter un réalisateur pour faire connaissance, ou une réalisatrice pour faire connaissance. Là, c'est Patrick Chia. Il a fait trois films. Il s'est fait connaître surtout il y a 2 ans avec une comédie très drôle qui s'appelait Boys Like Us, qu'on programme cette année au festival, de 3 pinniclés parisiens, 3 PD si vous voulez, 3 PD parisiens complètement godiches qui se retrouvent dans les montagnes d'Autriche. Donc mes 3 PD parisiens dans les montagnes, c'est une catastrophe. C'est une comédie vraiment vraiment très chouette et très tendre. Et puis cette année, il a présenté à Cannes et à Berlin un documentaire absolument fabuleux qui s'appelle Brothers of the Night. C'est un film qui s'inscrit complètement là aussi dans la lignée de Jean Genet, dans la lignée de Kenneth Anger, dans toute cette esthétique du cinéma dont je parlais tout à l'heure. C'est un documentaire sur des tapins bulgares qui sont échoués à Vienne. Donc c'est un film sur la solitude, c'est un film très mélancolique, un petit peu fictionnalisé, très théâtralisé, dans lequel ces personnages vont se confier. C'est une ode évidemment au corps masculin, à l'attirance qu'on peut avoir aussi pour les voyous, au côté interlope qu'on retrouve chez Jean Genet. Et puis c'est aussi un portrait terrible de la situation de ces garçons qui sont échoués et qui font croire à leur famille qu'ils ont réussi à l'étranger. C'est un film complètement homo-érotique, parce qu'on se rend compte aussi que ces garçons, sous leur virilisme démonstratif, sont en fait complètement... Il y a un homo-érotisme entre eux qui est flagrant, qui transperce tout. Et c'est un film qui dit énormément de choses sur qu'est-ce que c'est la sensualité entre garçons, qu'est-ce que c'est les faux-semblants. C'est un film absolument magnifique. Et Patrick Chia sera là donc pour sa comédie Boys Like Us et Brothers of the Night à Lumière Terreau le samedi soir. Venez le rencontrer. Alors vous savez que vous pouvez bénéficier de plusieurs séances à tarif réduit. En prenant la carte d'abonnement des cinémas Lumière, vous pouvez naviguer entre les 3 cinémas et la place revient à 5,70 €. Franchement, on peut se faire vraiment plaisir pour 5,70 € voir plusieurs films.
Oui, il y a toujours eu de la volonté aussi de la part d'équipe du Festival Écran Mix, parce que c'est aussi une équipe, bien sûr, de proposer aussi des films, des documents, des œuvres cinématographiques à moindre coût pour les spectateurs.
Et puis au maximum aussi de séances gratuites. Il y en a quand même 7 cette année en gratuit. Oui. Il y en a 4 en bibliothèque, 2 au Goethe-Institut et 1 à la fac de Bron. Donc en tout, il y a 7 projections gratuites, plus une conférence gratuite et plus une masterclass gratuite aussi. Donc il y a 9 événements gratuits, si vous voulez.
D'accord. Alors, avant de conclure l'émission, il faut que je fasse une petite annonce. Parce que j'ai promis à Tanguy, notre ami Tanguy Dufournet, qui intervient de temps en temps ici à l'émission qui est doctorant donc à la chaire de Lyon 2, donc de la chaire égalité, inégalité, discrimination, de faire une petite annonce. Je vais la faire, après nous reprendrons le cours de l'émission, qui est bientôt terminé d'ailleurs, pour donner tous les renseignements pour ceux qui voudraient avoir plus de détails sur la programmation du festival de cette année. Donc, cette année, la journée d'études de la chaire égalité, c'est une journée d'études de la chaire égalité, inégalité et discrimination, qui est réalisée donc avec le soutien de la ville de Villeurbanne, place du docteur. Alors, ça va se passer place du docteur Lazare Goujon, donc à la mairie de Villeurbanne, visiblement. Oui, salle de conférence au Palais du Travail de Villeurbanne. 9 place Lazare Goujon, je vais y arriver, Goujon. Donc, alors je lis le petit speech concernant cet événement. Dans le cadre de cette journée d'études, nous souhaitons montrer l'intérêt des liens à construire entre le monde de la recherche et celui des professionnels de la lutte contre les discriminations. C'est très, c'est réservé quand même à un certain public, hein. Voilà, etc., etc. Comment développer une relation constructive? Comment les professionnels, donc c'est bien réservé aussi à des professionnels, peuvent-ils participer, il ou elle participer à la recherche, voire à sa coproduction? Comment valoriser les connaissances produites et les rendre parfois effectives, etc., etc. Donc, c'est un événement dont Tanguy me dit parle-en. Je dis oui, tu crois que ça va intéresser beaucoup de monde? Mais oui, tu verras, parle-en, s'il te plaît. Tanguy, il intervient souvent, tu sais, enfin, il intervient occasionnellement.
Et c'est quel jour?
Alors voilà, il faut que je donne le jour, merci. C'est lundi 6 mars, en journée, de 9h à 16h. Donc il faut savoir qu'il y aura de la pluie, donc c'est l'occasion d'aller s'abriter de la pluie aussi.
À la Bourse du Travail de Villeurbanne.
Alors c'est au Palais du Travail, Palais du Travail de Villeurbanne. Horaire 9h-16h, lundi 6 mars, etc., etc. Voilà, donc je lis un petit peu le petit speech. Mais bon, Tanguy aurait aimé venir nous en parler un petit peu, mais il pouvait pas ce soir, ni la semaine dernière d'ailleurs. J'avais proposé de venir. Tanguy, il intervient souvent à l'émission, tu sais, au titre des notamment de son association
les invisibles de Stonewall.
Mmh. Voilà. Voilà, Tanguy, c'est fait, c'est, bah, écoutez, j'ai accompli ma promesse, j'ai parlé de l'événement, donc de la journée d'études de la chaire Égalité, Inégalité, Discrimination.
Bien. C'est merveilleux, c'est une bonne introduction au festival.
Tout à fait. Exactement, puisque le festival lutte aussi contre toute forme de discrimination, notamment.
Bien sûr.
Et présente une vision, positive aussi du monde LGBT.
Et créatrice.
Alors, le festival Écran Mixte, c'est du 8 au 14 mars. Alors, le site, tu peux nous rappeler l'adresse du site internet?
Festival-em.org.
Évidemment, site que je mettrai sur aussi la page Facebook, comme d'habitude, l'émission. L'émission a une page Facebook, on est moderne, Pluriel Gay, on a une page Facebook, on a un Twitter. J'ai même un site internet, ça s'appelle Pluriel Gay, je mettrai tous les renseignements. Pour terminer, on va écouter, avant de se saluer, on va envoyer une chanson célèbre, une sorte d'hymne gay, qui est la chanson de Gloria Gaynor, I Am What I Am. Mais il se trouve que justement, au festival Écran Mixte, et là ça va se passer au Pâté, je crois.
Pâté Bellecour. Dans la grande salle.
Vous allez proposer un film dans lequel cette chanson, entre autres, a beaucoup d'importance. Et c'est
Priscilla, Folle du Désert, voilà, qui ressort au cinéma en copie numérique restaurée pour la première fois au mois de mars. Et nous, on le passe en exclusivité à Lyon, au Pâté. Ça va être une grande fête, une grande joie. Il y aura des cadeaux à gagner.
Et je crois qu'il y aura toute une animation, effectivement.
Voilà, on va venir tous les travelots de Lyon, il y aura une ouvreuse, on va distribuer des sucettes.
C'est toi l'ouvreuse, non?
On va distribuer des sucettes, on va donner des affiches de cinéma, ça sera une grande fête et il y a un tarif spécial. Si vous achetez votre place Paris e-billet, si vous utilisez le code promo CINÉMALIN, tout en majuscule et sans accent, CINÉMALIN, vous avez la place à 6€. Donc allez-y, profitez-en pour finir le festival en chanson.
Et tu évoquais, on parle de fête, un petit peu de festivité, tu évoquais le bar Les Feuillants qui est aussi partenaire du festival, mais dans le cadre d'une soirée festive, c'est ça?
Oui, que...
La soirée du festival.
Bien sûr, que nous avons créée, qui s'appelle Queen Bitches. C'est la reine des salopes, c'est la soirée de la reine des salopes. Donc si vous avez une âme très méchante et très salope, vous pouvez venir à la soirée. D'accord.
Vous avez pensé à quelqu'un en particulier?
Oui, à toi. On pensait à la reine de la soirée. Et la prochaine fois, on mettra ta tête.
Merci, la salope vous salue bien. Et on va écouter. Alors, Bernard, je te remercie. Bernard qui va être absent quelques semaines de l'émission. Parce que tu sais, entre nous soit dit, heureusement qu'il y a les vieux, hein, parce que s'il fallait compter sur Boris, il n'est pas souvent là en ce moment. Bon, il est parti en Afrique du Sud.
En Afrique du Sud.
Voilà, justement. Qu'il passe de bonnes vacances, il reviendra quand même. En tout cas, merci Bernard d'être là. Et puis
ça lui fait cher un peu le billet pour voir le film Les Initiés.
Hein. Oui, c'est vrai, il aurait pu rester à Lyon et c'était moins cher, effectivement. Merci Yvan, en tout cas, d'être
là. Bonsoir.
d'être venu à nouveau.
Ce fut un plaisir.
Qui est aussi notre chroniqueur cinéma. On a fait beaucoup d'émissions ensemble pour Pluriel Gay. Et puis qui, toutes les années, nous revient au printemps pour le festival Écran Mixte, évidemment. Donc, on va écouter Gloria Gaynor, I Am What I Am. Et le festival, je rappelle, 8-14 mars. Ça commence la semaine prochaine. Merci à tous de votre écoute.
So come take a look, give me the hook or the ovation. It's my world that I want to have a little pride in. My world, and it's not a place I have to hide in. Life's not worth a damn till you can say I am what I.
Pluriel Gay, la seule émission LGBT sur Lyon et sa région. Chaque mercredi, de 20h à 21h, sur Radio Pluriel. Radio Pluriel, 91.5.